Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 24 avril 2024. Le vaste plan d'assistance militaire et économique à l'Ukraine a été promulgué aujourd'hui par le président Joe Biden au lendemain de son adoption au Congrès. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Chine ce mercredi pour sa deuxième visite en moins d'un an. Au Burkina Faso, après le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Ouagadougou ordonne la libération immédiate de l'avocat Guy Hervé Kam. Et toujours au Burkina Faso, haut facteur de résilience, de paix et de développement, c'est le thème de la 4e édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement.
Un pays, c'est comme le Burkina. Nous devons travailler à ce que la population ait des connaissances sur l'eau.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Au Kenya, des pluies diluviennes font 10 morts à Nairobi. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. On commence par l'actualité américaine. Le président Joe Biden a promulgué aujourd'hui l'aide américaine de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. La mesure a été votée par le Sénat hier après son adoption à la Chambre des représentants. Samedi, le chef de l'exécutif américain a aussitôt promis d'envoyer des armes à Kiev dès cette semaine. Nathalie Barge.
Le Pentagone a indiqué que l'assistance militaire américaine devrait reprendre dans les prochains jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit reconnaissant envers le Sénat américain pour avoir approuvé cette aide vitale. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a estimé que pour Moscou, ces armes ne changeront pas la dynamique sur le front. Ces fonds sont le résultat de plusieurs mois de négociations au sein du Congrès, embourbés dans des querelles partisanes. Le président Joe Biden et les démocrates sont restés favorables à l'aide, présentée comme un investissement dans la sécurité des États-Unis. Les républicains, influencés par Donald Trump, étaient devenus réticents et le patron de la Chambre des représentants, Mike Johnson, bloquait le texte. Ce plan d'aide autorise le président à vendre des actifs russes pour financer la reconstruction de l'Ukraine et une partie de l'enveloppe servira à reconstituer les stocks de l'armée américaine. Ce mercredi, l'armée ukrainienne a frappé des sites énergétiques dans l'ouest de la Russie. Ces attaques interviennent sur fond de tensions au plan stratégique avec Washington, qui a critiqué, selon des médias, les frappes de Kiev sur des sites énergétiques en sol russe et demandé d'y mettre fin.
Et déclaration du président américain juste après la signature des mesures sur l'Ukraine et Israël. Ces textes votés, je cite, vont rendre l'Amérique plus sûre et le monde plus sûr. Le président américain a aussitôt appelé Israël à veiller à ce que toute cette aide parvienne sans délai aux Palestiniens. Le directeur général de TikTok, Shou Sijue, a déclaré ce mercredi que l'entreprise s'attendait à gagner un procès pour bloquer la loi signée par le président Joe Biden qui, selon lui, interdirait la populaire application de vidéos courte utilisée par 170 millions d'Américains. Soyez assurés que nous n'allons nulle part, a-t-il déclaré dans une vidéo postée quelques instants après la signature par M. Biden de la loi qui donne à la société chinoise ByteDance 270 jours pour céder les actifs américains de TikTok. Les faits et la constitution sont de notre côté et nous espérons l'emporter à nouveau, a-t-il déclaré. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Chine pour sa deuxième visite en moins d'un an. Les États-Unis veulent augmenter la pression sur Pékin concernant différents dossiers comme son soutien à la Russie. Yakuba Ouedraogo.
Le chef de la diplomatie américaine a commencé son déplacement par Shanghai où il a assisté à un match de basket entre deux équipes comptant des joueurs américains dans leur rang. Demain, Anthony Blinken aura à Pékin des entretiens avec les dirigeants chinois au cours desquels il devrait plaider pour la retenue au moment où un nouveau président s'apprête à être investi à Taïwan. Il devrait faire part des préoccupations américaines sur les pratiques commerciales de la Chine que Washington juge anticoncurrentielles. Taïwan figure aussi parmi les questions délicates susceptibles d'être soulevées. Le Congrès américain a donné son feu vert mardi à une enveloppe d'assistance militaire de 85 milliards de dollars à destination d'alliés de Washington tels que Taipei. La Chine a agité la menace de mesures résolues et efficaces pour protéger sa souveraineté, sa sécurité et son intégrité territoriale. Une autre source de friction est la loi votée par le Congrès américain exigeant que l'application TikTok soit cédée par sa société mère chinoise ByteDance sous peine d'être exclue du marché américain.
L'ordre mondial bâti après 1945 est au bord de la rupture, alerte la secrétaire générale d'Amnesty International, ONG qui publie aujourd'hui son rapport annuel sur les droits humains en critiquant en particulier Israël et les États-Unis d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre. Pour l'ONG, dans un autre registre, la montée en puissance de l'intelligence artificielle est aussi source d'inquiétude, cette technologie pouvant accélérer la propagation de fausses informations ou perpétuer des biais racistes. L'ONU a inauguré aujourd'hui un fonds pour soutenir les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays face au choc climatique, avec pour objectif d'élever 100 millions de dollars d'ici à fin 2025. Dans un communiqué, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés explique que son travail de renforcement de la résilience face au changement climatique fait déjà partie de ses activités de protection et d'aide apportée à plus de 114 millions de personnes dans le monde.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, la justice burkinabé a de nouveau ordonné la libération de Guy Hervé Kam, célèbre avocat et leader de la société civile, arrêté fin janvier et détenu depuis, a indiqué son organisation. Le point avec Deli Diko.
La cour administrative d'appel de Ouagadougou, statuant en dernier ressort, a confirmé mardi la décision rendue en première instance par le juge des référés qui a ordonné le 7 mars la mise en liberté immédiate de Maître Guy Hervé Kam après avoir constaté que ses droits fondamentaux ont été violés selon le communiqué de « servir et non se servir » sens dont Maître Kam est le coordinateur national. La décision du 7 mars n'a pas été exécutée par les autorités burkinabées et l'avocat est toujours en détention. L'organisation SENS affirme que la procédure ayant conduit à l'arrestation et la détention de Maître Guy Hervé Kam est émaillée de graves irrégularités, notamment la violation des règles régissant la profession d'avocat. Elle appelle par conséquent les autorités à donner l'exemple en commençant par respecter les lois du pays et les décisions de justice qui sont rendues. Guy Hervé Kam, enlevé dans la nuit du 24 au 25 janvier à l'aéroport de Ouagadougou par des hommes en tenue civile, est détenu depuis à la sûreté de l'État, au mépris des dispositions garantissant la liberté et l'indépendance de l'avocat et du barreau, selon l'ordre des avocats du Burkina Faso.
Au Niger, 5 soldats chargés de protéger un programme de développement agricole ont été blessés dans une embuscade du groupe armé Boko Haram mardi dans le sud-est du pays, non loin du Nigeria, ont indiqué aujourd'hui les autorités locales, les soldats étaient en route pour prendre position sur un poste récemment créé. Au Kenya, 10 personnes ont péri et plusieurs autres étaient portées disparues. Ce mercredi, dans la capitale kenyane, Nairobi, où des quartiers ont été inondés après une nuit de pluie diluvienne, a annoncé un responsable policier, Rosine Monizero.
Le nombre de corps retrouvés jusqu'à présent est de 10 et nous avons d'autres personnes portées disparues, a déclaré Fred Abuga, commandant de la police du sous-comté de Starehe, dans le centre de la ville. Un total de 60 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été gravement touchées par les inondations soudaines et dévastatrices qui ont frappé la ville, ont annoncé les autorités dans un communiqué affirmant que Nairobi était au bord d'une crise humanitaire. La montée des eaux a touché aussi bien des bidonvilles comme celui de Matare que certains quartiers huppés comme Runda où se trouve le siège régional de l'ONU. Plusieurs axes de circulation majeurs de la capitale ont été noyés et en plusieurs points, des voitures et camions se sont retrouvés piégés par les eaux. En décembre, plus de 300 personnes avaient péri dans diverses catastrophes causées par des pluies diluviennes au Kenya, Éthiopie et Somalie. Le Kenya n'est pas épargné par les fortes précipitations qui s'abattent sur l'Afrique de l'Est, où la saison des pluies est intensifiée par le phénomène climatique El Niño.
Et la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville donc, a déclaré une épidémie de Mpox après que 19 cas ont été confirmés dans 5 départements, dont la capitale, Brazzaville. Aucun décès n'a encore été enregistré, a annoncé le ministre de la Santé dans un communiqué publié mardi. L'Organisation mondiale de la Santé a baptisé le virus Mpox en remplacement de l'ancien terme Monkeypox, variole du singe, en raison des craintes de stigmatisation et de racisme associés à ce nom.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouamadou Mfa.
La faim s'est intensifiée dans le monde en 2023, près de 282 millions de personnes dans 59 pays étant confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, une situation aggravée par les conflits, des événements météorologiques extrêmes et des chocs économiques, détaille le dernier rapport mondial sur les crises alimentaires du réseau d'information sur la sécurité alimentaire, pour qui les perspectives restent sombres pour l'année en cours. L'Afrique australe est menacée par une pénurie de céréales en raison de la grave sécheresse due principalement au phénomène climatique El Niño, a prévenu mercredi la FAO. Le déficit de production attendu, notamment pour le maïs, devrait intensifier l'insécurité alimentaire, faire grimper les prix et augmenter les besoins d'importation dans la région, a averti la FAO dans un communiqué. La Banque mondiale a annoncé mardi qu'elle avait suspendu le financement d'un projet touristique et écologique en Tanzanie après des accusations des violations des droits humains. Le projet Regrow a été créé dans le but d'améliorer la gestion des ressources naturelles et de sites touristiques dans le sud de la Tanzanie, mais l'Auckland Institute, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, a soulevé l'an dernier des accusations d'expulsion forcée et de violation des droits humains subies par les communautés vivant près d'un parc que le gouvernement prévoit d'agrandir dans le cadre du projet.
Le temps est venu de passer à l'actualité sportive. Yacouba Ouedraogo nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Après un jour de repos hier, la Basketball Africa League a repris ses droits aujourd'hui.
Bangui Sporting Club était dans une opération revanche, mais aussi et surtout relance face à Al Ahly de la Libye. Les Centrafricains s'étaient inclinés lors de leur première sortie dans cette Basketball Africa League face aux Libyens. Opération réussie pour Bangui Sporting Club qui s'est imposé 96-93. C'est la deuxième victoire pour les Centrafricains en quatre matchs. Dans le second match de ce jour, avec trois défaites en trois matchs, la mission s'annonce encore compliquée pour les Ougandais des City Oilers face aux champions en titre à la Ligue d'Égypte. Trois victoires en trois matchs. Vous pouvez suivre ces matchs à la radio sur les antennes de la VOA, partenaire de cette Basketball Africa League.
Des nouvelles maintenant de la NBA avec les playoffs qui se poursuivent.
Recrue star de l'hiver en provenance des Toronto Raptors, le Camerounais Pascal Siakam a réussi un énorme match avec Indiana sur le parquet de Milwaukee pour un succès 125-108 qui leur permet d'égaliser à 1-1. Redoutable d'adresse, Siakam a compilé 37 points et 11 rebonds, privé du grec Gianni Antetokounmpo pour un cinquième match consécutif depuis sa blessure au mollet gauche le 9 avril. Les Bucks ont pu compter sur Damien Lillard, 34 points, 5 passes décisives, mais sans succès. Minnesota a de nouveau battu Phoenix pour une deuxième victoire à domicile, 105-93. Jaden McDaniels a marqué 25 points, Rudy Gobert 18, mais c'est surtout en défense que Minnesota a brillé, éteignant en seconde période les habituels flamboyants scoreurs des Suns, Devin Booker 20 points et Kevin Durant 18 points de leur côté, plombés par leur maladresse, 32 tirs réussis sur 87. Les Los Angeles Clippers ont été dominés sur leur parquet par Dallas, 96-93. Dallas qui égalise à 1-1.
Toujours ici aux États-Unis, des gymnastes américaines victimes d'agressions sexuelles vont être indemnisées.
L'annonce est faite par le gouvernement américain qui parle de près de 139 millions de dollars à verser à plus d'une centaine de gymnastes victimes d'agressions sexuelles commises par un ex-médecin de l'équipe nationale Larry Nassar. Ce dernier purge actuellement une peine de prison à vie après avoir été condamné en 2017 et 2018 pour deux décennies de violences sexuelles. Parmi ces nombreuses victimes, on compte notamment la championne olympique Simone Biles. Le dédommagement consenti par le gouvernement est une réponse aux plaintes déposées par de nombreuses victimes qui accusaient la police fédérale, le FBI, de ne pas avoir mené une enquête adéquate, a expliqué le ministère de la Justice dans un communiqué.
Football, Evans Indica a reçu le feu vert médical pour reprendre l'entraînement.
Le défenseur international ivoirien, bien sûr, de l'AS Rome, Evans Mandika, victime donc d'un malaise en plein match, a reçu le feu vert médical pour reprendre une activité physique selon son club l'AS Rome. Et Mandika s'est soumis à une série d'examens cardiologiques et pulmonaires de niveau 3 qui ont confirmé l'absence de toute pathologie cardiaque et la guérison du pneumothorax minime constaté après le match, a expliqué l'AS Rome.
Page de sport VOA Afrique signé Yakuba Ouedraogo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Une exposition photo est en cours au Gabon pour conter l'histoire du pays. Elle se tient en marge des travaux du dialogue national inclusif. On y trouve des portraits d'anciennes personnalités politiques et dirigeants du pays. Mais dans cette collection, l'absence remarquée des photos d'Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais renversé par les militaires le 30 août 2023. Une plongée dans cette galerie et des explications de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Dès l'entrée du site du dialogue, ils observent et accueillent les visiteurs. Interrogateurs, leur regard semble questionner l'avenir d'un Gabon en panne de réconciliation avec son histoire. Aminata vient de faire la revue des photos les plus connues. Le premier président du Gabon, Léon Ba, son successeur Omar Bongo, mais la militante associative marque un intérêt particulier pour celle des opposants Feure Djambé et Pierre Mambundu.
J'ai une pensée vraiment profonde pour ce monsieur. Et monsieur Mambundu, lui, vraiment, c'était quelqu'un qui nous a donné envie de se battre. Donc vous voyez que cette histoire ne doit pas rester sous silence. Il faut qu'on en parle.
Toutes ces images, ou presque, font incontestablement partie des moments les plus significatifs de l'histoire du Gabon. Certaines rappellent des années de plomb du règne des Bongo, avec l'un des épisodes les plus sombres, la disparition dans des conditions non encore élucidées de Germain Ba, un intellectuel post-indépendance du pays. François Ondoedo, ancien journaliste, témoin de l'histoire.
Comme tous les Gabonais, nous savions qui accusait, parce que les enquêtes n'ont jamais abouti. Et ça a fait en sorte que je me dise que je ne soutiendrai jamais le régime des Bongo. Parce que Ali Bongo n'est pas là, mais je sais que les exposants ne voulaient pas que sa photo soit lapidée, parce que tous les gens qui viennent ici auraient fait vraiment la fête en lapidant la photo.
En effet, la photo d'Ali Bongo Ondimba manque à l'exposition du dialogue. Un oubli volontaire ou involontaire? Nous avons posé la question au promoteur de la présente collection, Olivier Auger.
Nous retraçons l'histoire à partir des photos anciennes et il fallait surtout mettre l'accent sur les figures qui ont marqué l'opposition gabonaise, donc jusqu'aux années 90 et un peu au-delà. Là par exemple vous avez les photos de Paul Mbabo Solo, Pierre Mamoudou, André Mbaoban, parce qu'il fallait mettre l'accent sur les figures de l'opposition gabonaise également. Et nous nous excusons si celle d'Ali Bongo n'a pas été présentée.
Collectionneur d'images et administrateur de la page Souvenirs du Gabon, Olivier Auger présente près de 200 pièces sur site. Il s'agit des tableaux aux effigies de personnalités historiques du pays, des portraits ou encore des images de configurations anciennes des villes du Gabon. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM. À Libreville.
Au Burkina Faso se tient la 4e édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement. Dans le contexte d'insécurité que vit le pays, la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement se pose avec acuité. D'ailleurs, le thème de l'édition est plus que jamais d'actualité. Aux facteurs de résilience, de paix et de développement de Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Ici à la salle des banquets de Ouagadougou, les acteurs du domaine de l'eau et de l'assainissement sont réunis pour discuter des problématiques du secteur et de proposer des solutions afin d'assurer le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous. Nous sommes à la 4e édition du Forum de l'eau et de l'assainissement. La question de l'eau et de l'assainissement doit être connue selon les participants. Alassane Samoura, directeur du musée de l'eau.
Un pays, c'est comme le Burkina. Nous devons travailler à ce que la population ait des connaissances sur l'eau. C'est vrai pour les populations, mais c'est vrai pour les hommes politiques également. C'est ça qui peut nous aider vraiment à faire de grosses contributions sur la recherche scientifique et consorts pour que vraiment la question de l'eau soit mieux connue et qu'on puisse trouver des solutions endogènes.
Mahamoudou Bari est le responsable de Babali, une marque d'eau minérale produite dans l'ouest du pays. Cet acteur s'inquiète de la question de la pollution de l'eau.
Nous, on contribue à disponibiliser l'eau, l'eau potable partout où il faut. Et aussi, nous contribuons à déjà alerter sur les dangers de la pollution de l'eau. Et puisque vous savez qu'il y a des actions qu'on peut mener en surface et qui peuvent polluer l'eau souterraine. Alors donc je pense que ça, il faut prendre beaucoup conscience de ça et travailler dans le sens d'éviter de polluer notre nappe phréatique.
Au Burkina, les ressources en eau qui existent sont bien utilisées, mais sont en deçà des attentes, selon Roger Barrault, le ministre de l'eau et de l'assainissement.
Les instructions sont données par exemple pour les barrages de Wessa. Voilà, les travaux sont en cours, barrage de Bouriba, des conventions sont en cours avec les partenaires pour que ce soit vraiment des barrages qui vont contribuer à la cohésion sociale. On parle de cohésion quand les gens ont les moyens d'existence dans leur communauté pour travailler, pour subvenir à leurs besoins.
Pour la question de l'assainissement, les autorités pensent qu'il faut changer de paradigme. Il ne faut plus sensibiliser les populations à un changement de comportement. Il faut plutôt mettre à leur disposition des infrastructures d'assainissement. Par exemple, des stations de traitement, des bouts de vidange, des centres d'enfouissement technique des déchets. Le forum ouvert lundi s'est achevé ce mercredi et a vu la participation de 500 acteurs constitués de chercheurs nationaux et internationaux, du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, des partenaires techniques et financiers. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Dans le village de Fapa, au nord de la Côte d'Ivoire, les femmes ont formé une coopérative pour cultiver des légumes et vendre leurs produits sur le marché, ce qui leur permet ainsi de collecter des fonds pour soutenir leur famille sans dépendre des aides. Davantage avec Blanche Sanou.
Le projet agricole de Fapa fait des femmes les principales actrices de la vie du village dans la société rurale qui tend généralement à être dominée par les hommes, explique Mariam Soulou, secrétaire de l'association des femmes de Fapa.
Au moment où je ne cultivais pas oignon, quand j'ai besoin de quelque chose, je suis obligée de demander à quelqu'un. Pardon, il faut m'aider. Ou soit pour demander à mon mari, il faut m'aider. Bon, s'il n'en a pas, je prends ça comme ça. Ou soit, je vais aller prendre crédit avec quelqu'un.
Le projet a bénéficié de l'aide du Programme alimentaire mondial qui a fourni des outils agricoles et des moyens de vendre les produits à la cantine scolaire locale. Olivia Hunt est la directrice pays du PAM pour la Côte d'Ivoire.
Nous soutenons un certain nombre de groupements agricoles constitués principalement de femmes en leur donnant justement les moyens de produire à travers la fourniture d'intrants agricoles mais aussi de techniques agricoles pour leur permettre justement d'avoir une meilleure rentabilité dans leur culture.
Selon une étude financée en 2020 par le Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, les femmes sont plus vulnérables dans le domaine agricole car les coutumes foncières favorisent les hommes. Seuls 8% des femmes possèdent des terres contre 22% des hommes. Et lorsque les femmes se marient, elles perdent souvent l'accès à la terre en cas de décès de leur mari, auquel cas elles sont censées retourner dans leur famille. Le projet vise à renverser cette tendance, selon Jean-Marie Biada, analyste économique.
La femme qui se déploie dans le maraîcher maintenant a déjà une place réservée dans la hiérarchie nobilaire villageoise. Telle qu'on va dire, cette femme-là travaille beaucoup, cette femme-là fait 4 hectares à elle toute seule, cette femme-là à elle toute seule représente le travail de 2-3 hommes. Donc, travailler déjà dans ces milieux-là permet qu'on vous donne une considération.
En 2022 et 2023, la collaboration de la coopérative avec la cafétéria de l'école du village a permis de produire 25 tonnes de légumes sur 40 hectares et 10 tonnes de légumineuses sur 18 hectares. Écoutons Mamadou Kone, coordinateur régional du projet de cantine scolaire de Poro.
Le fruit de leur production est divisé en trois grandes parties. En trois grandes parties, dont 30% reviennent à l'alimentation, au fonctionnement de la cantine scolaire. Les 70% sont divisés en deux parties. une partie pour la consommation locale et une partie réservée à la vente.
Les études en Côte d'Ivoire révèlent que 42,9% des femmes du pays travaillent dans l'agriculture plus que tout autre secteur. Alexandrine Rolonio avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Parlement britannique a approuvé le projet de loi controversé permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Il définit notamment le Rwanda comme un pays tiers sûr. Ce projet vise à lutter contre l'immigration clandestine en envoyant les migrants au Rwanda en échange de sommes substantielles. Que pensez-vous de cette politique ? Aura-t-elle le potentiel de dissuader les futurs demandeurs d'asile, réduire le flux migratoire ? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et sur voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé ce mercredi en Chine pour une visite de 2 jours. Il doit s'entretenir avec de hauts responsables chinois à Shanghai et à Pékin sur une série de questions, notamment la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la crise au Moyen-Orient, la mer de Chine méridionale et les droits de l'homme. Na Keqing, chef du bureau de la VOA au département d'État, en dit plus dans ce reportage repris par Gabi Dorsil.
Avant de s'envoler pour la Chine, pour ses entretiens au cours desquels il soulèvera la question des droits humains, le chef de la diplomatie américaine a dévoilé les rapports annuels du département d'État sur les pratiques en matière de droits de l'homme de l'Asie au Moyen-Orient.
Les Rohingyas en Birmanie, les Ouïghours au Xinjiang sont tous victimes de génocides et de crimes contre l'humanité. Les États-Unis continueront à faire part de leurs profondes préoccupations directement au gouvernement responsable.
Blinken s'est également exprimé sur le soutien de la Chine à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Les États-Unis ainsi que d'autres pays du groupe des 7 ont exhorté la Chine à cesser de transférer des matériaux à double usage et des composants d'armes que la Russie utilise pour faire progresser sa production militaire. Les États-Unis ont déclaré qu'ils étaient prêts à prendre d'autres mesures si nécessaire, mais Pékin a rejeté les préoccupations de Washington. Écoutons Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
En principe, la coopération normale entre la Chine et la Russie dans divers domaines ne devrait pas être perturbée ou restreinte.
D'anciens responsables militaires américains estiment que des sanctions supplémentaires sont nécessaires. Le contre-amiral à la retraite, Mark Montgomery, est membre de la Fondation pour la défense des démocraties. Il a parlé à la Voix de l'Amérique via Zoom.
Absolument, l'effort de guerre russe est soutenu et étayé par le soutien de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord. Et la capacité des États-Unis à tenir la Chine pour responsable de cette situation passe par des sanctions.
Washington fait appel à ses alliés européens pour des mesures similaires, selon des analystes. Kelly Grieco est chargée de recherche au Stimson Center, basé à Washington. Nous l'avons jointe via Zoom.
Contrairement aux États-Unis, l'Union européenne n'a pas vraiment sanctionné les individus ou les entreprises chinoises au même degré que les États-Unis. Il se peut donc qu'il y ait une tentative avec la réunion du G7 d'obtenir plus de soutien de la part des Européens pour prendre ce type d'action.
D'autres questions urgentes figurent à l'ordre du jour de Blinken, notamment la lutte contre les stupéfiants, la mise en place de discussions sur l'intelligence artificielle et le renforcement de la communication entre militaires dans le contexte des tensions en mer de Chine méridionale. Mais les officiels et les analystes américains ne s'attendent pas à ce que les réunions du secrétaire d'État cette semaine en Chine débouchent sur des avancées majeures.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
du monde aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.